On va parler gros dossier en fin de semaine sur la maltraitance des aînés. Ce sont les gens de la presse. Hein, qui ont fait ça. Il y a des nouvelles données. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le gouvernement là a de meilleurs outils pour compiler les cas de maltraitance envers les aînés. Alors, ça a changé. Là, c'est un peu complexe. Je veux pas rentrer dans les détails. Mais avant, là, c'était un peu flou. Il y en avait. Là, pour recenser, pour savoir il y en a combien, tout ça, il y a des outils. C'est un peu drôle parce que la presse a tout compilé ça. Puis là, ils ont appelé la ministre Marguerite Blais pour dire, hey, vous en pensez quoi? Il y a plus de 800 cas de maltraitance d'aînés. Je pense que c'est ça.
866. Le...
Voilà. Et Marguerite Blais a répondu, ah ouais, ben vous êtes plus rapide que nous, on ne l'a pas encore compilé. T'sais, on a les données, autrement dit, on les histoires, les cas, elle dit, on n'a pas encore fait la compilation. Alors, je le dis souvent, les fonctionnaires, envoyez-nous vos chèques aux médias. On fait votre job. Constamment, souvent, on fait votre job. Alors, dans ce cas-ci, la presse, donc, sort ça, 866 cas de maltraitance d'aînés, puis la ministre n'est pas au courant encore. Eh bien, là, elle l'est, là. Fait que, là, pour l'instant, elle est préoccupée, vous avez compris. Il y a quoi là-dedans? Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des familles qui volent. Carrément, ça, c'est dans les cas. Parmi les plus nombreux, c'est les propres enfants qui volent leurs parents. Il y a des abus sexuels. Il y a des abus physiques, de la violence. Il y a, honnêtement, là, il y a beaucoup de choses là-dedans. On va en parler dans 5 minutes. Mais je veux vous compter de quoi. Qui a, on peut bien blâmer la ministre Blais, le gouvernement, les employés, ceux qui dirigent les résidences pour personnes âgées. Je sais pas, tout ce monde-là. Je pense que le problème numéro un, c'est la solitude. C'est le fait qu'ils sont isolés et seuls. Je vais vous compter de quoi que j'ai vécu en fin de semaine. Je m'en vais visiter une tante. Je dirai pas où, compte tenu de ce que je vais compter après. Je veux pas dire c'est où la résidence, OK? Ça change rien à l'histoire. Puis je veux pas plus les pointer du doigt. Fait que je vais visiter, ça fait longtemps qu'elle est là, dans une résidence pour personnes âgées, quelque part au Québec, OK? Fait que j'avais pas encore vu où elle restait. Puis elle était comme contente qu'on aille la voir, tout ça. J'étais avec ma mère, tout ça. Puis elle nous a fait faire le tour. On a fait le tour de sa résidence. Honnêtement, là, je capotais. Puis j'ai pas arrêté de le dire à ma tante. Vous êtes donc bien! Vous êtes bien ici! C'était beau. On a ça ici en passant, des belles résidences dans la région de Québec. C'est pas ici, là, c'est ailleurs. Hey, à un moment donné, les allées de quilles, le mini-pot, j'ai compté le nombre de tables de billard, la piscine, le spa. Je voulais rester là. C'est pas compliqué. C'est quoi l'âge minimum, là, pour être... En blague, mais c'est un milieu de vie vraiment agréable. Ils ont une bibliothèque, il y a un piano, il y a une coiffeuse, caisse populaire, le dépanneur, ils vendent même du vin. Tu sais, ça joue aux cartes, là. À un moment donné, je parle devant une salle, ça joue aux cartes. Moi, j'aime bien les cartes, là, Dan, comme toi. J'ai failli demander, on peut-tu nexer? Tu sais, peux-tu mettre mon ex? Là, j'ai juste compris. Hey, il a pas coupé. Ah, il devait jouer au neuf pour moi avec l'atout, d'après moi. Ouais. Coupe pas! Là, j'essaie de deviner. Il avait l'air d'avoir du plaisir. C'était le fun. On monte sur le toit en haut. Non, ouais, je dirais pas sur quoi. Mais il y avait une belle vue, un beau paysage. Et là, on est sur le toit, sur le top. Ma tante a dit, je viens ici, je m'installe, je lis. Puis, tu sais, hey, vous devez passer du bon temps. C'est donc bien agréable. Et là, on s'approche de la rambarde. Il y a un petit garde. Puis là, en bas, je vois Jean Fontaine, balançoire, tout ça. Vous pouvez imaginer, jeu de pétanque. Et moi, j'aime ça. J'aime ça, la pétanque. De temps en temps, on jouait avec mon père. Moi, ça, c'était son jeu. Ah ouais, ça joue à pétanque. Tout, je dis, ma tante, vous êtes bien ici. Je suis content de voir à quel point vous avez un endroit agréable. Ouais. Mais elle dit, c'est pas tout le monde. Ah, ben, j'imagine que c'est pas tout le monde. Là, on est sur le bord du garde. On regarde la montagne, les couleurs en bas. Là, elle me fait signe en bas. Elle dit, ici, là, il y en a une... Ben, il y en a plus qu'une. Elle dit, on en a eu deux, là. Là, elle finit pas la phrase. Elle fait juste pointer avec son nez en bas. Ah, je dis, il y en a une qui joue à pétanque. Il y en a une ou un qui, qui se berce la balle. Non, elle dit, il y en a deux, là, que. Ils ont sauté. Oh. Je vais dire, oh, oui, elle dit, ça arrive, hein. Ils ont sauté. Hein? Là, depuis tantôt qu'on disait, vous êtes bien, c'est donc belle fun ici. Je dis, comment ça? Ben, elle dit, on a eu des fois, elle dit. Des suicides. Ils se jettent en bas. C'est donc bien triste. Elle dit, il y en a une, elle dit, elle a sauté. Elle dit, je connais ça un petit peu. Elle dit, elle était isolée. Ouais, elle dit, sa famille, jamais, jamais, venait la voir. Alors, elle a écrit un tout petit message, tout simple. Vous venez jamais me voir, là, vous allez me voir. C'est tout ce qu'elle a écrit, puis elle a sauté.
Elle écrit ça et ta
mâche. Vous venez jamais me voir. Ben là, vous allez me voir. Puis il y en a deux. Je sais qu'on ne doit jamais, normalement, on parle quand il y a des suicides, on n'en parle pas. De temps en temps, je pense que c'est nécessaire. Je vais faire la mise en garde habituelle. Lorsqu'on parle de ça, ça peut donner des idées. Ne faites pas ça, demandez de l'aide. C'est courageux de demander de l'aide. Faites le 2-1-1. Tapez juste 2-1-1, ça va vous donner un service, un psy, de l'écoute. Si ce matin, vous vivez une période difficile, on pense à vous, là. Il y a du monde autour, quelque part, qui vous aime. Ne faites pas ça. Alors, la mise en garde est en fait. Une fois de temps en temps, moi, je me permets d'en parler. Donc, on revient à la maltraitance. Pourquoi je vous compte ça? Parce que faut pas trop noircir aussi. Il y a encore plein de personnes âgées qui vivent du bon temps, puis que leurs enfants, c'est le cas de ma tante, a de la visite, les enfants sont là. Mais combien sont isolés? Et je pense que la solitude a des impacts et sur ta santé physique, mentale, et ça permet et ça ouvre la porte à de la maltraitance. Ces gens-là, oui. Qui vous pensez s'attaquent? T'sais, mettons là, que c'est des employés, là. Ils vont s'attaquer à qui? Celle ou celui qui reçoit de la visite à tous les semaines? Ou deux fois par semaine? Mais voyons donc!
Ceux qui n'ont pas de
surveillance. Ils vont voler, agresser, battre les personnes âgées qui sont seules.
Ben, personne ne va le remarquer.
Ben, mais c'est ça. Puis ils vont se plaindre à qui? Ben, aux autres employés? Ils vont-tu prendre la plainte? J'espère, peut-être. Mais si ta fille ou ton garçon vient te voir à ton bout de champ ou tes petits-enfants, hey, me suis fait voler, t'as peu, là. Alors, c'est clair que ce sont ces personnes-là qui sont parfois ciblées.
Ben oui, parce que plusieurs cas qu'on a vus dans les dernières années, c'est la famille immédiate qui se sont rendus compte que leurs proches se faisaient voler. C'est eux qui dénonçaient publiquement. Puis c'est comme ça que les employés se faisaient pogner. Fait que c'est sûr qu'eux autres, aujourd'hui, s'ils ont à choisir quelqu'un, ce ne sera pas celui qui reçoit de la visite tout le temps, là.
Non. Alors, faites juste y penser. Je sais que ça demande du temps, que tout le monde est pressé, qu'on court. Mais il faut aller visiter ces gens-là. Vous savez qu'il y a des pays dans le monde où ça n'existe pas parce que les gens restent dans la famille. Chez nous, c'est pas ça. En passant, faut pas trop se juger sévèrement. Jase avec des gens qui ont des résidences pour personnes âgées, qui gèrent tout ça, là. Souvent, ça fait l'affaire et des enfants et des parents parce que les parents rendus un certain âge, qui sont grands-parents, etc., veulent une forme de liberté. Tu sais, ils aiment ça avoir leurs affaires, puis être indépendants, puis vivre dans une belle résidence. Mais ils veulent de la visite. Ils veulent pas être tout seuls. Ils veulent pas couper tout le contact. Alors, on a un système où, au-delà d'un... À partir d'un certain âge, les gens s'en vont dans ces résidences-là. Mais là, faut aller les voir de temps en temps, là.
Il y a Diane qui nous écrit, puis c'est un bon point. Elle dit, on ne connaît pas le passé des gens. Des fois, ça peut être compréhensible qu'ils reçoivent aucune visite ou très peu. Il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de la famille. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de parents qui en veulent, d'enfants qui en veulent à leurs parents, puis qui se disent, t'auras aucune visite parce que tu m'as maltraité toute ma vie. Ça aussi, il y en a, par exemple.
Alors, on va parler, donc, de tout ça avec notre prochaine invitée, Marie Beaulieu. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées à l'Université de Sherbrooke. Madame Beaulieu, bon matin.
Bonjour.
Alors, 866 cas, c'est ce que la presse sort en fin de semaine, de maltraitance, des cas de maltraitance envers les personnes âgées. Je viens de compter l'histoire un peu là, que j'ai vécu en fin de semaine. Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que on est en mesure de dire si c'est en augmentant ou c'est juste qu'avant, on avait moins d'outils puis là, on est capable de le diagnostiquer plus?
Oh, écoutez, je pense pas que la maltraitance augmente. Il y a deux choses, par contre, qui jouent. Un, on a maintenant une loi qui le met plus de l'avant depuis le 30 mai 2017. Deux, depuis 2010, on a des plans d'action gouvernementaux pour contrer la maltraitance envers les aînés. On a fait beaucoup de sensibilisation. Et ce qui fait que les gens savent de plus en plus reconnaître la maltraitance puis vont oser en parler. Donc, on a vraiment commencé à briser le tabou il y a presque une dizaine d'années. Donc, il est pas étonnant qu'à ce moment-là, les situations sortent plus.
OK. Donc, on en parle plus. Autrement dit, entre autres, si on en parle plus, tant mieux. Est-ce que, je parlais tantôt d'isolement, est-ce qu'on peut tirer, pas nécessairement des grandes conclusions, mais les personnes âgées qui sont la cible de maltraitance, est-ce qu'il y a un profil? Est-ce que c'est souvent des gens que les enfants vont plus visiter, etc., sont plus isolés?
Oui, ben écoutez, vous posez une bonne question parce que on peut parler de personnes âgées à domicile qui sont maltraitées. Oui. Quand on regarde les rapports, l'article en fin de semaine qui nous a quand même tout le monde fait bien réfléchir sur les fameux 866 cas répertoriés par les commissaires aux plaintes, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de cas à domicile. Donc ces gens-là, souvent, peuvent être isolés, mais d'autres vivent avec leur famille. Donc la question de l'isolement est peut-être moins présente pour eux. C'est peut-être plus, à ce moment-là, un regard qu'il faut porter sur c'est qui est dans leur entourage. Et la question qu'on se pose souvent, puis vous me l'amenez comme ça, c'est est-ce qu'il y a un profil de la personne âgée qui est maltraitée? En fait, à domicile, ce qu'on sait, c'est ceux qui seraient peut-être un peu plus à risque que les autres. C'est ceux qui commencent à avoir des pertes cognitives, donc des pertes de mémoire. Et c'est aussi des gens qui sont peut-être un peu moins instruits, qui connaissent moins les services, qui savent moins où aller chercher de l'aide. Par contre, ce qui est vraiment important, puis les derniers travaux sur la maltraitance nous montrent bien, c'est qu'il faut pas juste s'attarder à qui est la cible. Il faut surtout regarder l'entourage. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le fond, une personne âgée pourrait être très vulnérable, mais jamais être maltraitée parce que son entourage est bon et positif. Mais à l'inverse, malheureusement, une personne qui est peu vulnérable peut aussi être maltraitée parce qu'il y a des gens autour d'elle qui veulent soit profiter d'elle ou de son argent. Okay. Donc ça, pour moi, c'est vraiment troublant. En milieu d'hébergement, parce qu'il faut voir que la loi couvre les deux, puis couvre en particulier le signalement obligatoire dans la loi, il est pour les gens en milieu d'hébergement, donc nos fameux centres d'hébergement de soins de longue durée. Et la loi couvre aussi de façon obligatoire tous les gens sous régime de protection, c'est-à-dire des gens qui ont été déclarés inaptes au sens de la loi, c'est-à-dire des gens qui ont des pertes cognitives suffisamment sévères qu'on a mis en place soit une tutelle, une curatelle ou un mandat de protection. Donc, en milieu d'hébergement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut regarder à la fois l'organisation des services, il faut regarder le profil du personnel, leur formation, leur encadrement. Et cette fois-là, vous avez raison, il faut regarder l'isolement. C'est pas pour rien que souvent, on va dire dans les travaux, que malheureusement, les gens qui ont moins de visites peuvent peut-être être un peu plus la cible que les autres de maltraitants.
Les gens qui commettent ces gestes-là, ce sont essentiellement des employés de ces résidences-là ou, c'est ça qu'on découvre un peu là-dedans, là, il y a beaucoup de proches. Est-ce qu'on a des proportions sur ceux qui commettent ces gestes-là de maltraitance, de quel milieu ils proviennent?
Ben, en fait, souvent, dans les milieux d'hébergement, on a pointé du doigt rapidement le personnel qui avait beaucoup de contacts avec les personnes âgées. Donc, on pense entre autres aux préposés aux bénéficiaires.
Okay.
Moi, je dis qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui font des jobs extraordinaires et qui sont pas reconnus pour tout ce qu'ils font. Donc, dans ce genre de rapport comme on vient d'avoir, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas parce qu'une personne âgée est hébergée que sa famille qui pouvait la maltraiter avant va arrêter de le faire. Ils peuvent le faire autrement. La maltraitance psychologique peut continuer, il peut y avoir une certaine maltraitance financière. Les rapports des commissaires aux plaintes nous amènent aussi sur un volet important de la reconnaissance de la maltraitance qu'on a au Québec, c'est-à-dire la maltraitance organisationnelle. Donc, comment des soins et des services, dans la façon dont ils sont programmés, dans la façon dont ils sont dispensés, peuvent devenir maltraitants pour les personnes âgées.
Est-ce que j'ai raison de dire que ça peut surprendre, dans ce qui peut le plus surprendre les gens qui nous écoutent, c'est la maltraitance qui provient des proches de l'entourage, notamment financier. Évidemment que c'est tous des cas graves. Il y a des gens qui se font battre, qui se font agresser sexuellement par ça peut être des employés, des travailleurs, mais quand ça vient de la propre famille, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, voyons donc, ils se font voler, ils volent leurs propres parents. Est-ce que c'est vraiment des cas isolés ou il y en a beaucoup de ça?
Ben, j'aimerais bien ça vous dire que c'est isolé.
Ouais.
Par contre, ce qu'on sait, c'est que non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À domicile, la maltraitance qui, selon les études, est normalement la plus fréquente, c'est de la maltraitance psychologique puis c'est de la négligence. Mais tout de suite après vient toute la question matérielle et financière. Moi, je pense que le matériel et financier est peut-être plus facile à observer, donc un peu plus facile à signaler. C'est peut-être pour ça que ce sont plus ces dossiers-là qui ont pu se rendre vers les commissaires aux plaintes. Mais je pense que la question que vous posez est très bonne. Souvent, les gens ont peine à s'imaginer que des personnes âgées puissent être maltraitées par leur entourage.
Oui.
Et la réponse, c'est malheureusement oui. C'est conjoints, enfants, petits-enfants, mais c'est aussi des proches du voisinage. C'est aussi des dispensateurs de services.
Est-ce que, là, évidemment, la ministre se dit préoccupée. On va voir si elle va proposer, je sais pas si à la lumière de ça, elle va proposer des gestes concrets. Selon vous, là, qui avez étudié ça, quelles seraient les solutions? Évidemment, de le savoir, d'en parler, d'avoir les chiffres, comme la loi le permet maintenant, ben, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour protéger nos aînés?
Ouais. je vais commencer par vous répondre sur les chiffres, puis après ça, je vais revenir sur la protection. Les chiffres, je dois vous dire que ce rapport-là, pour moi, il est important, mais en même temps, ça dit pas tout, là, parce que on a à peu près 1,5 million de personnes âgées au Québec. Et dans la littérature internationale, on dit que, grosso modo, à chaque année, un aîné sur 6 est susceptible de subir de la maltraitance parmi ceux qui vivent à domicile. Donc, c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on a là. Donc, ce rapport-là nous aide parce que on pourrait dire, maintenant, on a une loi au Québec. On a rendu le signalement obligatoire pour les personnes en CHSLD et pour les gens sous régime de protection. Mais il y a quand même un paquet de monde pour qui le signalement n'est pas obligatoire. C'est tous les autres aînés pour qui on peut signaler au commissaire aux plaintes ou à la police, mais on est c'est vraiment on peut. Là, l'obligation n'est pas là. Donc, l'obligation est quand même restreinte aux CHSLD et aux gens sous régime de protection. Pourquoi? Mais parce que ce sont les gens qui sont le moins capables de se défendre. Maintenant, vous me demandez ce qu'il faut faire. Ouais. Ben, il faut continuer avec nos campagnes de sensibilisation. Il faut que les gens sachent c'est quoi la maltraitance, qu'ils soient capables de la reconnaître et qu'ils puissent se dire qu'il y en a dans tous les milieux où il y a des personnes âgées. Donc, le domicile, les résidences privées pour aînés, les HLM, évidemment les CHSLD, je vous dirais un paquet d'autres endroits où on rencontre des aînés. Donc, il faut se rendre compte de ça. Il faut aussi que les gens sachent qu'on a une ligne d'écoute provinciale pour leur venir en aide, donc que les gens peuvent en parler. Donc, de 8 heures le matin à 8 heures le soir, et ce, 365 jours par année, on a une ligne québécoise qui s'appelle la ligne Aide Abus Aînés, et leur mandat est 100% l'écoute, soit des gens maltraités, soit des proches, et même des intervenants qui voient des cas de maltraitance, qui savent pas quoi faire, peuvent appeler pour se faire coacher. Si vous le permettez, je vais le donner le numéro de téléphone, allez-y. Parce que je pense que c'est important.
Oui.
1-888-489-2287.
Madame Beaulieu, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci.
Mais ça me fait plaisir. J'espère qu'on va continuer à enrayer ce problème.
Oui, merci beaucoup. Marie Beaulieu est titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l'Université de Sherbrooke. On recense 866 cas de maltraitance au Québec. Alors, on a maintenant des chiffres. Madame Beaulieu nous dit que c'est important. On est capable plus de mettre le doigt sur le bobo. Mais il faut pas juste faire ça. Faut aller plus loin un peu. Ça existe. Même des membres de la famille, du voisinage. Ça peut être des préposés aux bénéficiaires. Il y a la maltraitance organisationnelle. Des fois, ça vient même d'en haut. Oui, les personnes, évidemment, qui ont pas de visite isolées peuvent être plus ciblées. C'est bon, quoi. Une fois qu'on a tout dit ça, là, mais aller vraiment loin, là, vous allez trouver que c'est un détour, mais vous allez comprendre. Je connais au moins dans mes amis 3 personnes. Jean-Simon étant l'une d'elles. Bravo en passant, là, mais vous allez voir, je vois. 3 personnes qui, de temps en temps, vont dans les refuges pour animaux puis promènent des chiens. Ils les connaissent pas, c'est pas leurs chiens, là. Ils ont jamais vu. Mais c'est très louable. Ils rentrent là, ils prennent le chien. Comment ça prend de temps, 1 heure?
Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 25 minutes, ça dépend. Là.
Ouais. Tant que toi, là. Connaissez-vous des gens qui visitent des personnes âgées qui connaissent pas?
C'est pas le même engagement, par exemple.
Moi, j'en... Non, mais allez faire un tour. Allez les...
Moi, mais je serais pas mal plus gêné d'aller voir une personne âgée que je connais pas puis essayer de faire la discussion que d'aller promener un chien. T'as pas besoin
pas
de parler.
Idée, t'as pas idée
c'est sûr,
comment ça va leur faire plaisir.
Je suis convaincue, t'as raison. Mais c'est, ça prend un type de personnalité quand même.
Quand je vois mon père, là. Quand je vois mon père, parce que vu qu'il est le département problèmes cognitifs, donc Alzheimer et autres, il était sur ce département-là. Bon, combien de fois j'ai jasé, mais là, c'est pas parce que j'allais y visiter, des fois, il te saute d'un bras. Ah, mon fils! Comprenez, la madame, elle pense que... Mais qu'est-ce qu'on fait? Je joue le jeu. Je savais pas trop quoi faire au début. Je joue le jeu.
Mais
Puis je le parle pendant un petit bout de temps. Pas assez longtemps, peut-être. Je le parle. T'as pas idée... Elle, la madame, est heureuse. Hein? Elle est sûre que son fils vient d'aller la visiter. Puis alors que, bon, c'est pas ça. Mais il jase. Non, je le fais pas. Moi, j'y vais, je vais voir mon père. Mm-hmm. Je l'ai jamais fait. Je suis pas en train de me tirer un rang, de dire je suis meilleur. Mais qui on le fait pour les animaux? Je suis juste en train de vous dire que je connais plein de gens, c'est bien. Qui vont voir des animaux qui sont pas eux autres, ils les connaissent pas, puis ils leur donnent du temps et des soins. Je suis en train de vous dire qu'on devrait valoriser un peu les aînés. Chaque fois qu'on parle d'eux autres, c'est comme une charge, c'est comme un problème, c'est comme la maltraitance, tout ça. Et si on allait les voir un petit peu plus? D'abord, ça commence par la famille. On commence évidemment par les nôtres. Mais même là...
Parce que les gens nous soulignent que tu n'as pas le droit, de toute façon. Si tu n'es pas un bénévole autorisé officiellement, ouais, tu ne peux pas entrer dans un CHSLD.
Il y a plein d'associations, il y a plein de monde, ouais, qui font ça. C'est facile, là. Ils ont des... Voyons donc, non, je sais, là. Commencez pas à cogner, rentrez là. Ouais. Pis, non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais tu rentres pas non plus dans le refuge.
Non, non,
puis tu dis pas, bonjour, je prends le chien, puis je pars avec, là. C'est, non, non, il y a certaines démarches.
Mais je pense qu'on ressent plus... Je pense que je parle juste pour moi, là. On ressent plus de malaise envers une personne âgée qui a des difficultés cognitives ou qui est un peu pas tout à fait là, envers la vieillesse, qu'envers un pitbull abandonné.
Ouais. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais c'est pas normal.
Non, ben non.
Tu comprends
ce que
je veux dire? Pourquoi on...
Mais t'as pas besoin d'y parler au pitbull. Tu prends la laisse, tu vas prendre une petite marche.
C'est tombé rendu compliqué à parler, mais je m'implique là-dedans.
C'est gênant de parler à quelqu'un que tu connais pas.
Tu sais qu'on parle. Il y a du monde qui nous écoute qui le font, là. Il y a du monde, j'en connais pas, mais je sais que ça existe. Des associations de bénévoles, ils font des activités.
Ah ben oui.
Je le sais, parce que là où est mon père, il y en a qui viennent. Il y en a qui viennent jouer de la musique.
Mm-hmm.
Il y a du monde qui rentre, là. Puis il y a du monde qui rentre. On va parler encore des animaux, c'est bien, là. L'autre jour, la madame rentre avec ses deux chiens. Puis bon, elle nous le dit. Bonjour, vous êtes qui? Ah, elle dit, moi, je m'en vais visiter. Mais évidemment qu'elle s'est annoncée. Elle a un papier, elle a de quoi. Elle, une fois par semaine, elle prend ses chiens, elle en a trois, puis elle les amène où mon père est. Mm. Il y en a un autre qu'elle vient chanter. Il y en a un qui joue de la musique. Yo, ça existe! Mais ils sont pas nombreux. Mais on pourrait... T'es pas obligé d'aller t'asseoir, d'avoir une conversation. Des fois, ça peut être les divertir, ça peut être faire de quoi.
Mais c'est quoi,
on
si
devrait encourager
tâches,
ça un peu. C'est juste c'est ça que je veux dire.
Si tu faisais partie d'un organisme de bénévoles qui remplit des tâches spécifiques, je pense que t'aurais plus de gens qui iraient que « Hey, allez là, asseyez-vous puis jasez avec. »
C'est si ceux qui ont le plus besoin.
Oui, c'est ça. C'est ceux qui ont le plus besoin, mais c'est parce que ça prend un type de personnalité. Moi, je suis pas, je serais un peu mal à l'aise, honnêtement. Par contre, si tu me dis « Va au CHSLD,
tellement...
promène-toi de personne en personne. »
Écoute, je te dis pas que ça ne demande pas un effort. Fort, mais l'humoriste réel,
Mélan,
tu sais, son fameux personnage qui appelait des. Il se faisait passer pour quelqu'un qui se trompait de numéro, là. Mais il finissait par jaser.
Monsieur Latreille.
Monsieur Latreille.
Oui.
C'était drôle.
Ah oui,
c'était
drôle.
Super drôle ce que Réal faisait. Mais c'était aussi extrêmement révélateur que les personnes âgées ont le goût de parler puis ont le goût de jaser. Parce qu'il ciblait toujours des personnes âgées,
oui,
réelles. Il avait déjà compté, là. Il demandait dans l'assistance, j'ai déjà vu son show, c'était très bon. « Hey, qui a un père, mère ou grand-père là, que vous savez qui est à la maison? Ben, »« Bonjour, M. Latreille. » Il faisait sa joke. Mais le monde était...
Non, non, il jasait au bout.
Il jase!
Oh, oui,
ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils ont du temps. Vous avez déjà parlé à des gens qui font du porte-à-porte pour ramasser de l'argent, bonne cause ou autre. Demande-leur. Il y en a que ça finit plus.
Ils sont là. Les députés qui font du porte-à-porte.
C'est parce qu'ils s'ennuient. On peut-tu le dire? C'est parce qu'ils s'ennuient. Ils sont prêts à parler à un inconnu, à M. Latreille, qui est Réal Bellan, qui niaise un peu, mais c'est pas méchant. D'après moi, les témoins de Jéhovah, même eux autres, ils doivent avoir...
un bon public avec les personnes.
D'après moi... Non, mais on en rit, mais c'est parce qu'ils s'ennuient.
Non, mais c'est sûr qu'ils aimeraient ça. Ils adoreraient ça. Mais ce que je dis, c'est que je ne vais pas blâmer les gens qui ne vont pas parce que je ne suis pas sûr que
blâme,
c'est.
Pas,
non,
non, j'ai rien fait.
C'est
de
moi
blâme.
Qui dis ça. C'est moi qui dis
mais
ça.
Mais il est drôle,
moi,
je
te sens
non, je suis en train de dire que ce n'est pas évident pour des gens d'aller parler à du monde que tu ne connais pas qui sont en perte cognitive. Moi, je l'ai vécu avec mes grands-parents.
J'ai pas dit perte cognitive.
Ah, ben, en tout cas,
quand mon père, c'est ça parce qu'il est là. Non, non. Je dis que très peu de gens vont visiter des personnes âgées qui ne connaissent pas. Ça se fait avec les animaux, ça se fait pas que les personnes âgées.
Ce que je te dis, Sylvain, c'est que moi, je l'ai vécu avec mes grands-parents. Un en perte cognitive, puis l'autre en perte physique. Puis même moi, je n'étais pas 100% à l'aise et c'était mes propres
grands-parents. Mais je n'ai pas parlé de ça pantoute, mais je vais faire la précision. Là. De toute façon, au département d'Alzheimer et autres, tu peux pas bien avoir une conversation avec certains, c'est très difficile. Par contre, tu peux les divertir avec, ça peut être du chant ou des animaux. Je te parle des autres, là. Je te parle du reste. Il y a plein de gens qui ont toute leur tête, puis qui ont aucune visite. Puis ils sont là, puis ils s'ennuient, puis ils s'emmerdent, puis ça manque de contact humain. Pierre Lavoie nous l'a dit ce matin, quand il parlait des pertes. C'est démontré que si tu n'as plus de contact avec plein de monde, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de réseau, tu vas comme te déconnecter.
Ouais.
Et ça va accélérer ta maladie.
Exact, le dépérissement.
C'est carrément ça c'est qu'il dit. Là. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Pierre, il est toujours documenté quand il dit
mais
quoi,
c'est
là.
Fascinant le malaise qu'on ressent tout. Puis je pense pas que c'est Élie ou toi ou n'importe qui l'a plus que les autres, mais c'est tellement culturel. Tu sais, en Afrique, il y a un dicton, une personne âgée qui décède, c'est une bibliothèque qui brûle. J'ai pas l'impression qu'on a la même vision de nos personnes âgées ici au Québec, mais pas en tout.
Non.
Ou plutôt, on les voit comme des bibliothèques dans le sens du meuble. T'sais, on les parque à quelque part, on les envoie à quelque part, on les entrepose, mais tout le côté savoir, le côté expérience, c'est tout un potentiel qu'on a, on ressent un malaise avec ça.
T'es un enseignant ou une enseignante, pourquoi tu pars pas avec ta classe un moment donné puis tu vas pas en visiter, poser des questions, faire des rencontres, etc. T'sais, je lance des affaires, là. Pourquoi ça se ferait pas, ça?
Mais t'as plusieurs personnes qui semblent faire partie d'organisations différentes, qui organisent des choses comme ça. Il y a Albatros Charny, entre autres, apparemment, qui fait ça. L'organisme Les Petits Frères, apparemment, organise des événements comme ça. Il y a François qui nous dit, moi, je m'assois souvent sur un banc à Laurier-Québec, puis je parle aux madames ou aux messieurs qui s'assoient juste à côté de moi. Ça peut être un petit geste aussi, parce que t'as beaucoup de personnes seules qui sortent dans les centres d'achat, juste pour voir du monde aussi, là. C'est pas nécessairement parce qu'ils ont des commissions à faire.
Il y a des travailleurs de rue qui se promènent puis qui vont jaser. J'ai vu ça la semaine passée avec les itinérants ici. Je trouve ça bien correct. C'est correct d'aller voir ces gens-là, de leur parler. Mais ceux qui sont dans leur maison tout seuls, demandez à, comment il s'appelle? Je m'en ai oublié. L'infirmier de la rue à Québec.
Ah,
là.
C'est quoi son nom?
Gilles Keg.
Oui, c'est ça.
Demandez à Gilles Keg, les gens que lui, il va voir, là. Comment ça se fait qu'on parle de lui depuis des années, Gilles Keg? Il est pas mal, puis c'est, on parle de lui avec raison, mais il semble pas beaucoup y avoir d'autres mondes avec, tu sais, qui font un peu la même chose. Mm.